On va parler d'un sujet d'actualité qui est le maintien de l'ordre dans une grande cité. Nous sommes en 1831. La ville de Lyon représente à peu près 190 000 habitants et elle n'en est pas à sa première révolte. Le Beaujolais est coulant à flot dans la ville. Dès que le printemps arrive, les Lyonnais descendent dans les rues et ont tendance à faire des monomes. Alors, simplement un petit rappel, en 1830, la révolution se passe à Lyon en juillet. La révolution de juillet se passe à Lyon sans un seul mort. Le drapeau de la République, le drapeau tricolore flotte sur l'hôtel de ville. La garde nationale a fait le siège de l'hôtel de ville et le capitaine Prévost a fait capituler le maire, le préfet et le général en milieu d'après-midi, à 15h. Les autorités ont disparu. On a un nouveau maire qui s'appelle Gabriel Prunel. Il a 53 ans, c'est un médecin. Je crois qu'il est effectivement aussi patron d'une grande loge. Donc, à Paris, c'est complètement différent. Vous voyez les photos, ça s'est battu. Le duc d'Orléans arrive au Palais Royal et c'est Louis-Philippe qui va quitter le Palais Royal et qui, finalement, va devenir roi des Français. Donc retenez simplement qu'à Lyon, on avait proclamé la République et que malheureusement, les Parisiens ne nous ont pas suivis. Comme d'habitude, il y a toujours eu une opposition entre la ville de Paris et de Lyon. Alors, un an après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les canuts qui se sont souvenus qu'ils ont aidé les bourgeois, cette première révolution de 1830, c'est une révolution de la bourgeoisie. La deuxième révolution, celle de 1831, un an après, c'est la véritable révolte des canuts. Et les canuts donc, se sont souvenus qu'en 1830, ce sont eux qui ont dépavé les rues, qui ont fait les barricades, et donc ils se sont sentis quand même un petit peu plus forts. Alors, le cadre d'action, d'abord, bon, la ville, vous la connaissez, voilà l'hôtel de ville avec le drapeau tricolore, vous voyez encore les fiacres et tous les pavés devant la rue, voilà la Croix-Rousse. Voilà la grille de la Croix-Rousse, il va y avoir des combats. Voilà le funiculaire, la place de Croix-Paquet. Le péage du Pont-Morand, qui va aussi voir des combats. Voilà le Pont-Morand. Je vous rappelle que le Pont-Morand était un pont en bois qui a été détruit à la fin du 19e siècle, au début des années 1900. Voici le quai de Reste. Là, vous voyez à l'extrémité à droite l'arrivée du pont Morand. Et le pont Lafayette. Alors, le pont Lafayette, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est le pont Charles X. Et quand Lafayette l'a emprunté en 1829 pour faire une conférence à Lyon, il ne savait pas que ça deviendrait le pont. Il l'a emprunté parce que le maire de Lyon lui avait interdit, monsieur de la Croix-Laval, lui avait interdit de prendre le pont des Guillotières. Donc, c'est assez rigolo. Il a pris le pont Charles X et quelques années après, il va s'appeler pont Lafayette. En souvenir. Alors, les hommes qui sont en place, donc c'est l'époque de Jacquard. Jacquard nous a inventé le métier à tisser. Et on arrive à la fabrique. La fabrique, c'est d'abord 700 à 800 négociants au sommet. Alors, on les appelle fabricants, on les appelle négociants, on les appelle propriétaires. Ils sont effectivement propriétaires de la marchandise. Et ils la font traiter à façon à j'ai mis 8000 mètres, c'est 800, pardon. 8000 mètres, oui, c'est 8000 mètres ou chefs d'atelier qui possèdent 1 à 4 métiers à tisser et qui vont faire travailler 30 000 ouvriers, ce sont les canuts. Ces chefs d'atelier, une petite particularité, 50% sont des anciens de l'armée impériale. Donc ils sont tous officiers et c'est eux qui vont encadrer le mouvement des canuts, qui vont lui donner cette forme militaire qui va être importante et qui va faire que le contrôle de la ville sera difficile à effectuer par les militaires. Les 30 000 ouvriers, je vous ai mis, travaillent 16 heures par jour, l'été. Je vous rassure, puisqu'on travaille du lever du soleil au coucher du soleil. Donc l'été, effectivement, ça fait 16 heures par jour. Ils sont très mal payés, ils sont nourris en général. Le patron mène ses ouvriers à déjeuner, et c'est très souvent le seul salaire qu'il perçoit. Donc effectivement, les conditions sont difficiles. Elles sont d'autant plus difficiles que le chef d'atelier n'est payé que quand la marchandise est vendue et encaissée. Donc il peut y avoir un an entre la commande et le paiement du salaire. Et vous voyez 800 fabricants, 8000 maîtres chefs d'atelier. Ça veut dire que pour chaque fabricant, il a 10 chefs d'atelier à sa botte. Et donc, s'il y en a un qui l'embête, il en a 9 qui attendent. Donc, il est à peu près tranquille pour lancer ses fabrications. La concurrence est très dure. Les Américains, quand les Américains n'achètent plus, c'est notre meilleur marché. Et la famine va sévir dans la ville, ce qui explique les mouvements sociaux. D'autant plus que les Anglais, évidemment, nous concurrencent, comme d'habitude, ce qui n'arrange pas les choses. Je vous ai mis une petite phrase en dessous pour vous montrer l'importance du problème économique. C'est que les exportations Lyon représentent 80% des exportations de la France. Alors évidemment, on n'exporte pas beaucoup, hein, mais ça veut dire quand même que Lyon, c'est la Ruhr de l'époque. Alors, les personnages clés, voilà le général François Roguet. Le général François Comte de Roguet dit à ses hommes qu'il n'y a plus de nobles et que lui, François Comte de Roguet, est là pour les servir. Il est plein d'humour, il est né dans le sud-ouest, donc il est plein d'humour. Le voici un peu plus vieux, il a vécu assez vieux. Il a avec lui, pour diriger la garde nationale, le général Ordonneau, qui est en fait un général en retraite. Mais le général Ordonneau, vous voyez, il n'est pas plus vieux que le gouverneur, puisqu'il a 61 ans lui aussi. Donc la garde nationale, je vous rappelle, c'est à peu près... c'est une garde qui est levée par des volontaires. Ce serait ce qu'on appelle les réserves cette année. C'est les réserves d'aujourd'hui. Sauf que ce sont les quartiers qui lèvent cette garde nationale, et les officiers sont triés parmi les négociants et parmi les chefs d'atelier. Donc vous voyez les antagonismes qu'on peut avoir dans cette garde nationale. Elle représente au maximum sur les cahiers 15 000 hommes. Mais ce sont des gens qui sont requis pour une journée, deux journées, qui sont requis pour du travail temporaire. Le maire de Lyon, maintenant il a 54 ans, notre ami Gabriel Prunet, mais comme il est député de la Tour du Pin, il n'est jamais à Lyon. Donc il laisse faire son adjoint, et après il fait des grands écrits pour dire qu'il regrette ce qui s'est passé à Lyon, la ville qu'il aime tant et tout. Bref, il ne s'intéresse pas du tout à sa ville. Et puis, alors, j'ai pas pu trouver une photo du père des Canuts, le préfet, monsieur Bouvier du Molard. Je l'ai écrit en un seul mot, mais lui, il écrivait en trois mots, Bouvier du Molard. Et puis après, une fois qu'il a été viré, il est revenu à l'écriture ancienne. Alors, pourquoi le père des Canuts? Eh bien, alors, où loge le préfet? Eh bien, il loge place des Jacobins. La préfecture, à cette époque-là, était place des Jacobins. Et les jardins de la préfecture se terminaient sur la place Bellecour. La place des Jacobins était triangulaire, et le bâtiment donc barrait complètement vers le sud la visibilité. Cette préfecture sera déplacée où elle est actuellement à la fin du règne de Napoléon III. Voilà une des dernières photos donc de la préfecture peu avant sa destruction. Donc vous voyez que la fontaine des Jacobins était très très petite. Je crois qu'elle est à la Croix-Rousse actuellement, cette fontaine. Alors, c'est une révolution qui est particulière parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ou même dans l'histoire du... peut-être pas dans l'histoire du monde, mais enfin dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois qu'un officier général s'est occupé d'économie. Tout simplement, notre général Roguet, il est ami avec le vice-président des Prud'hommes. Vous savez que les Prud'hommes ont été créés à Lyon en 1804 ou 1807, je ne sais plus, par Napoléon Ier, pour régler les litiges entre les patrons et les ouvriers. Donc le vice-président des Prud'hommes susurre à l'oreille du général que les salaires sont bas, il y a une mévente et tout, et le général s'empare de la chose et il clame haut et fort qu'il faut faire quelque chose pour aider les ouvriers et peut-être même augmenter le tarif. Alors le maire et le préfet sont furieux, ils lui balancent quelques pots de banane, et le préfet prend l'affaire en main. Le préfet finalement donc convoque les assemblées donc de chefs d'atelier. Les chefs d'atelier vont négocier. On va négocier pratiquement jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, on arrive à un accord, on arrive à un tarif, et ce tarif est établi pour être mis en route au 1er novembre. le 29 juillet 1831, le général fait des grandes manœuvres sur le Grand Camp. Le Grand Camp, c'est à Villeurbanne, où il y avait l'hippodrome avant. C'est avant la création du camp de Saint-Tonnet. Donc, à cette époque, on n'a pas de caserne à Lyon. On a les maigres troupes qui sont à Lyon sont dispersées dans des maisons à droite et à gauche, dans des anciens établissements religieux. Donc, on met une compagnie par-ci, une compagnie par-là. Et vous imaginez bien que le soir, quand les sous-officiers vont dans les bistrots, ils se retrouvent avec les chefs d'atelier. Et si le lendemain, il faut faire du maintien de l'ordre, c'est pas facile, puisque le chef d'atelier va rappeler au sergent que la veille, ils ont vidé quelques flacons ensemble. Alors, cette manœuvre se fait avec un régiment qui est à Lyon, qui arrive sur quatre bataillons. Il arrive à en avoir trois qui sont dans la ville, qui sont logés dans la ville. C'est le 66e régiment d'infanterie. Ils font une manœuvre avec la garde nationale. Et malheureusement, ce 66e régiment avait été tensé parce qu'ils avaient combattu les Lyonnais en 1830. Et en 1831, ils se font de nouveau punir parce qu'ils ont rien fait. Enfin, ça, c'est la vie, comme dirait Louis Blanc. Alors, le dimanche 20 novembre 1831, les indicateurs... Il y a beaucoup d'indicateurs de police à l'époque. Hein, vraiment, comme il y a peu d'argent, bon, ben, on fait de l'argent comme on peut être indicateur de police. Et sous Charles X, c'est une explication d'ailleurs de la révolution de 1830, c'est que les gens en avaient marre d'être surveillés comme ils l'étaient. Toute ressemblance avec la réalité serait fortuite, hein, bien entendu. Et donc, les indicateurs disent au général, méfiez-vous, ça bouge dans les Cambuses. Parce que le 1er novembre, quand les chefs d'atelier sont allés présenter la note au patron, les patrons leur ont dit, bah, écoutez, ouais, mais allez voir le préfet, vous allez négocier avec le préfet, bah, que le préfet vous paye la différence. Donc, on vous paye au tarif ancien. Donc là, vous voyez, l'ambiance, à partir du 1er novembre, commence à être survoltée. Et donc, le 20 novembre, le général ne se méfie pas. Il fait encore une parade sur la place Bellecour avec un bataillon du 66e RI avec la garde nationale. Tout se passe bien, il se serre la main, tous. Bon, ben, il va se coucher tranquillement. On est le dimanche. Le lundi, c'est pas la même. Donc, le lundi, les Croix-Roussiens descendent sur les terreaux. Ils sont pas contents. Et cette fois, ils sont 30 000. 30 000 hommes qui descendent sur les terreaux. Le général, on le réveille en sursaut. On lui explique ce qui se passe. Il essaye de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va essayer de lancer la troupe. Alors, ils sont quand même surpris. Mais comme il y a beaucoup de monde dans les rues, le général va esquisser une manœuvre. Il va envoyer un bataillon du 66e régiment d'infanterie et un bataillon de la garde nationale. Ils vont essayer de monter par Croix-Paquet, de monter à la Croix-Rousse, pour essayer d'arrêter les manifestants. Malheureusement, il y a trop de monde sur la route. Les soldats sont imbriqués dans les manifestants, ils ne peuvent rien faire. Alors le préfet se dit, moi, je suis le meilleur, je vais faire une deuxième colonne, je vais me débrouiller, je prends les deux autres bataillons du 66e RI, et je vais monter par la Grande Côte. Alors, effectivement, ils arrivent sur la place, mais là, ils sont tellement imbriqués dans les manifestants que les manifestants cravatent le préfet et le général Ordonneau, le patron de la garde nationale. Alors, ils les emmènent, ils les séparent, chacun dans un bistrot. Je pense qu'ils les ont un peu secoués, d'ailleurs. Bon, en fin d'après-midi, quand même, ils libèrent le préfet parce qu'ils se disent « c'est quand même l'autorité suprême ». Il faut quand même faire attention. Et il y a le général Ordonneau. Alors là, depuis les terreaux, le général Roguet commence à grogner et il promet d'amener l'artillerie. Il n'en a pas, donc il risque rien. La nuit se passe à peu près, et dans la nuit, on libère le général Ordonneau, donc on pense que les affaires sont calmées. Le général en profite pour faire un petit manifeste. Il appelle tout le monde à retourner au travail, dans l'honneur, etc., etc. Bon, les belles paroles, mais le lendemain, eh ben, ça recommence. Les 30 000, ils redescendent encore en direction des terreaux, et ils font leur défilé dans la ville. Alors, il reste des réserves. On va tenter une dernière manœuvre par le Jardin des Plantes. avec le 13e de ligne et le 40e de ligne, et comme la veille, ils vont rester bloqués, ils vont rien pouvoir faire. Les esprits s'échauffent, la bataille va commencer à s'étendre un peu à tous les quartiers de la ville, et puis surtout, les insurgés vont essayer de prendre des munitions, ils vont aller piller les arsenaux et ils vont piller, la poudrière de Vaise. Alors voilà les combats. Donc ça, c'est le combat de la grille de la Croix-Rousse que vous avez vu tout à l'heure. Ça se passe mal. L'armée va être obligée de se replier. Voici le combat sur la place des Bernardins. Alors là, les insurgés prennent rapidement le dessus. L'armée est obligée de se replier. Et surtout, sur les 3000 hommes que comptait la garnison, il y en a à peu près la moitié qui sont passés à l'ennemi, qui sont passés aux insurgés. Vous avez déjà 500 à 600 hommes qui ont été désarmés par à peine 50 hommes dans la caserne des Colinettes. Vous savez, c'est là où il y avait l'ancienne école de santé, là, les services de santé. 106, ensuite, vous avez 130 hommes, 126 hommes qui quittent la caserne de Serein. Là, ils sont dans l'école vétérinaire. Ils passent à l'ennemi, au lieu de se rendre à la poudrière où il y a un engagement et de la défendre. Et puis, vous avez le 12e dragon à 3 escadrons. Il y a pratiquement un tiers qui passe également à l'ennemi. Donc, c'est fichu. Il reste même pas de 1200 hommes pour le général pour essayer de ramener l'ordre contre 30 000 personnes. 1000 contre 30 000, l'affaire est fichue. Et donc, vous voyez ici la fin de la bataille de la place des Bernardins. Et surtout, pour la première fois dans l'histoire de Lyon, les gens de la Guillotière, les ouvriers de la Guillotière, le faubourg de la Guillotière, qui est le faubourg industriel, ils passent à l'action, ils arrivent au Pont-Morand pour essayer de prendre l'hôtel de ville à revers. Là, le combat est très dur, l'armée arrive à les contenir depuis la rive droite, et vous voyez ici l'octroi du pont Lafayette qui est en train de flamber, donc là, ça se passe mal. Le général réfléchit. Voici la situation à 17h. Les troupes sont bloquées au niveau de la Croix-Rousse. Elles n'ont pas pu monter sur le plateau. Les seules troupes qui ont pu à peu près résister sont celles du Pont-Morand. Vous voyez ici en rouge les insurgés. Ils sont partout. Ils ont pris l'arsenal. Et surtout, ils ont pris la poudrière de Serein. Donc ils vont se retrouver avec de la poudre et des cartouches. Et puis avec l'arsenal, ils vont récupérer 1300 fusils. Donc là, cette fois, ça devient grave. Le général prend sa décision. Il dit, moi, je m'en vais pour sauver des vies humaines. Donc le général décide d'abandonner les lieux, de se replier et de demander des renforts. Donc il va quitter, donc nous sommes le mardi 23 novembre. Il va quitter discrètement pendant la nuit l'hôtel de ville avec les dernières troupes qui lui restent et avec ce qui lui reste de la garde nationale. Par le quai Saint-Clair, malheureusement, c'est une nuit magnifique, pleine lune, on y voit comme en plein jour, les Croix-Roussiens sont persuadés que l'armée est en train de les attaquer, et ils vont, à partir de la porte de Saint-Clair, ils vont passer sous un feu infernal, le général sur son cheval va passer au milieu de la mitraille, et ils vont se réfugier à Rieux. Ils vont prendre leur quartier à Rieux et attendre, ce qui est la solution la plus sage, attendre que ça se passe. Le mercredi matin, les Canus sont propriétaires de la ville. Ils sont les patrons. Il n'y a qu'une seule maison qui est pillée, c'est la maison qui est sur la maison qui est en face du Pont-Morand, parce que là, l'armée avait tiré sur les manifestants la veille. Donc ils vont piller la maison, et puis finalement, ce qui reste de la garde nationale va arrêter deux pilleurs, on va les fusiller, comme par hasard, je suis désolé, mais deux pauvres Italiens qui vont passer à la trappe. Et on est mercredi, les Lyonnais sont propriétaires de la ville. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est propriétaire d'une ville? Ben on est bien embêtés. Ils sont bien embêtés. Alors ils maintiennent l'ordre, ils font ce qu'ils peuvent, donc il n'y a aucun dégât, aucun pillage. Bon, il y a eu quand même quelques morts, hein, puisque bon, on estime que jusqu'au mercredi matin, il y a à peu près 200 morts et 300 blessés. Il y a quand même un peu de dégâts. Donc ils sont propriétaires de la ville, et puis bon, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, les femmes viennent voir les hommes, et puis leur disent, bon ben écoute, il faut faire bouillir la marmite, tu retournes au boulot, parce que ça va pas la faire comme ça. Donc voilà le bilan que je vous ai annoncé, donc 200 morts et 300 blessés, donc c'est quand même pas neutre. Aujourd'hui, les maires seraient offusqués. Alors bon, il y a quand même quelques batailles parmi les canuts. Pérénon publie un manifeste soi-disant signé par Lacombe. Lacombe va être furieux, il va publier son manifeste derrière en disant « c'est pas moi, c'est lui ». Donc il y a quand même un peu de bataille pour prendre le pouvoir. Et puis le samedi, alors les troupes commencent à arriver, donc le général lui s'est réfugié à Rieux, et donc il occupe les forts de Montessuie en attendant pour bloquer la ville, évidemment, il assiège la ville, et il attend ses renforts. Et puis voilà le colonel Magnan, il arrive de Montbrison avec le 49e de ligne, donc un régiment comme ça, c'est quand même 3000 hommes, hein. c'est 4 bataillons. Les bataillons font en général 800 hommes plus tous les soutiens. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il va dîner avec les insurgés à la Croix-Rousse, tranquillement. Il va dîner avec un des chefs, Buisson, le nommé Buisson. Et donc, vous imaginez le général Roguet qui a son PC à Rieux, qui apprend qu'un de ses subordonnés va traiter avec les insurgés. Vous imaginez la colère du général. Alors, pour la petite histoire... Évidemment, le général a été légèrement sanctionné, puisqu'après, il s'est retrouvé à former l'armée belge. Et ensuite, c'est devenu un des principaux collaborateurs de Napoléon III. Il n'a pas terminé maréchal, parce que l'Empire est tombé avant. Lundi 28 novembre 1831, donc vous voyez, on reprend une nouvelle semaine de travail. Le roi à Paris a demandé à son fils, le duc d'Orléans, à son fils aîné, de partir à Lyon pour ramener l'ordre public. Et donc, il part à Lyon avec le ministre de la Guerre. Le ministre de la Guerre, c'est le maréchal Soult. Le maréchal Soult, c'est un des grands barons de l'Empire. Donc, c'est pas un tendre. On l'appelle le jésuite beauté. Alors, si vous avez besoin de rien, vous pouvez l'appeler. C'est un homme politique. D'ailleurs, il sera président du Conseil de Louis-Philippe. Donc, en descendant depuis Paris jusqu'à Lyon, ils vont rameuter toutes les gardes nationales qu'ils vont pouvoir trouver dans les provinces. Et ils arrivent à Lyon, et ils vont passer en revue les hommes du général Roguet, 7500 hommes, là, à Rieux, et ensuite ils rentrent à Lyon. Bah, vous imaginez, ils rentrent à Lyon dans une ville morte, tout le monde est au travail, ils n'ont rien eu à faire. Alors, il a mis son PC après à... au château de la Roue, à Rieux. Bon, ça, c'était pour la suite. Mais je crois qu'il a dû coucher au Mont-Verdun, passer sa première nuit, et il a écrit à son père qu'il n'avait jamais eu aussi froid de sa vie, que la maison était glaciale. Donc voici Maréchal Soult dans ses œuvres au temps de l'Empire. Le voici au moment des fêtes, donc 62 ans. Alors, ça, c'est la deuxième. Je vous ai dit que pour la première fois de l'histoire, un général avait pris le parti des ouvriers, eh bien, le ministre de la Défense est allé prendre des cours d'économie auprès du comte d'Argout. Le comte d'Argout, c'est le ministre du Commerce. Je ne sais pas si les parents avec les d'Argout de Lyon, il y avait un professeur de maths spé au lycée du Parc qui s'appelait d'Argout. Je crois qu'ils sont parents. Et le comte d'Argout lui dit que l'État n'a aucun droit de régler les salaires. Il ne doit pas y avoir de consultation collective des patrons ou des ouvriers. Les assemblées de profession sont défendues et ne peuvent donner des pouvoirs qui engagent qui que ce soit. Vous imaginez quelqu'un actuellement dire une chose pareille? Mais là, c'était la sagesse. Et surtout cette phrase en rouge, la fabrique concurrencée par l'étranger n'est pas libre d'améliorer le sort de l'ouvrier en travaillant à perte. Donc il y a quand même cette notion de rentabilité à l'époque. Aujourd'hui, on vous explique qu'avec 3 ans d'endettement de la France, ce sont nos petits-enfants qui vont payer dans 100 ans. Et surtout, il ne faut laisser aux tisseurs aucun espoir de conserver un tarif quelconque, car tant qu'ils en conserveront, ou tant qu'ils auront espoir d'en obtenir un, Lyon se trouvera exposé à des perturbations. Donc vous voyez que le général Soult est bien armé. Alors évidemment, il va faire un édit, donc voilà la traduction, on le voit mieux, et dans son édit, il casse le tarif, il renvoie le maire, le préfet et le général dans leur 22, et il annule donc toutes les décisions qui ont été prises et qui ont amené les perturbations de Lyon. Alors, le maire, eh ben, il est à Paris, il ne risque rien, il va rester en place. Le seul qui va trinquer, c'est le préfet, puisque c'est une tradition à Lyon. Hein. Dès qu'il y a des troubles, le préfet est viré. Et le général, alors lui, il a un exil doré, il est nommé pair de France, et il va rejoindre le Sénat à Paris. Et donc, le mardi 6 décembre, donc, vous voyez, ça va assez vite, puisque à 15 jours près, donc, Bouvier-Dumoulard repart à Paris, il a perdu son poste. Et un petit mot pour terminer, le Premier ministre qui a suivi les opérations depuis Paris, c'est Casimir Perrier. Et il va mourir un an, et il a 46 ans, donc vous voyez que c'est quelqu'un de jeune. Il a 46 ans et il décédera moins d'un an après. Voilà Casimir Perrier dans ses œuvres. Et surtout, il a épousé Marie-Cécile Loyer au château de Visille. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, mais la Révolution française est partie de la Réunion de Visille en 1788, je crois, ou 86. Donc vous voyez, l'histoire se répète et Visille reste à l'honneur. Voilà. Et c'est pas fini, puisque en 34, ils vont recommencer. Mais ça sera pour une autre fois.